Installez-vous confortablement, c'est l'heure de C'est moi qui lis. Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez C'est moi qui lis, la chronique qui vous fait découvrir ou redécouvrir un livre unique et magnifique. Chaque lundi, mercredi et vendredi soir, je vous partagerai un livre qui m'a touchée, surprise, choquée. Je vous en dirai bien sûr un peu plus sur l'auteur ou l'autrice, sur le processus d'écriture du livre et je vous en lirai un passage. Ce soir, prenez une coupe de champagne, coiffez-vous de votre plus beau chapeau, on va parler d'Amélie Nothomb. Oui, on prononce le B, j'ai fait l'erreur aussi. Donc Amélie Nothomb, elle est née le 13 août 1967 à Kobe au Japon. Elle y est restée jusqu'à ses 5 ans, puis elle a déménagé de pays en pays parce que son père était diplomate belge. Pour elle, c'est le premier grand choc de sa vie. Et à l'âge de 12 ans, elle subit une agression sexuelle par 4 hommes, puis elle tombe dans l'anorexie à 13 ans. Bon, on est d'accord, c'est pas l'histoire la plus joyeuse. Et finalement, elle découvre à 17 ans l'écriture, qui sera la suture pour elle. Et publie son premier roman en 1992, Hygiène de l'assassin. En 1999, elle reçoit le Grand Prix du roman de l'Académie française. C'est un des prix les plus prestigieux qu'on peut avoir. Et elle fait donc à ce jour partie des 15 femmes ayant reçu ce prix sur un total de 103 lauréats et lauréates. Avant de commencer à lire des livres d'Amélie Nothomb, pour moi, c'était la femme au chapeau. J'avais entendu pas mal d'amis me dire qu'elle était bizarre, tout comme ses livres. Depuis, j'ai changé d'amis et j'ai lu 8 de ses romans. Bon, il m'en reste encore 20 à lire, mais je sais déjà que quoi qu'il arrive, je ne changerai pas d'avis sur son talent d'autrice. Bon, je suis d'accord, de ce que j'ai lu, on est sur des histoires assez spéciales. Des meurtres, des vengeances, du manque d'amour, de la jalousie, même de la télé-réalité. Mais la façon d'écrire d'Amélie Nothomb est vraiment particulière. Je la trouve directe, authentique et honnête. Et ses personnages, aussi fous soient-ils, sont fascinants. C'est une de ses spécialités, je crois, et elle le dit elle-même.
Tous mes monstres sont nés et tous mes monstres sont vivants.
J'avoue avoir en plus un faible pour elle de par sa francophonie. Bon, j'en parlerai sûrement dans un autre épisode, mais j'aime le fait de savoir que je lis précisément ce qu'Amélie Nothomb a voulu que je lise. Il n'y a pas de traducteur ou de traductrice dans la boucle. Il y a Amélie Nothomb qui écrit et nous qui lisons. Et cette même langue d'écriture et de réception, je trouve que ça amène un lien particulier encore plus avec Amélie Nothomb. D'ailleurs, en parlant de traduction, ces livres sont traduits en 40 langues et sont en France tous édités chez Albin Michel. Une autre spécialité d'Amélie Nothomb, c'est le choix des prénoms de ses personnages. On trouve entre autres Déoda et Trémière dans Riquet à la houppe, Palamède dans Les Catilinaires, Épiphane et Étel dans Attentat, et Claude, Dominique et Épicène dans Les Prénoms Épicènes. On va d'ailleurs parler ce soir de ce 27e roman d'Amélie Nothomb.
Alors c'est le 27e roman publié.
Publié, puisque la vérité est bien plus grave. Je suis en train d'écrire le 94e et en vérité, Les Prénoms Épicènes est le 91e.
Oui, ça c'est impressionnant quand même.
Et à mon avis, c'est un phénomène qui ne va pas se calmer. Donc,
pour notre plus grand plaisir. Ils sont cachés chez vous ?
Ils sont chez moi dans des boîtes à chaussures. J'ai déjà été cambriolée plusieurs fois. Les voleurs ont tout pris, mais pas les boîtes à chaussures. Je pense qu'ils ne savaient pas qui ils cambriolaient.
On découvre dans un instant ce roman après le titre Diamonds de Rihanna. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
Like diamonds in the sky. I knew there would become one right away. to the universe as we moonshine and Malay. Feel the warmth, we'll never die. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. At first sight, I felt the energy of some rage. I saw the life inside of you. So shine bright tonight. You and I, we're beautiful like diamonds in the sky. I too. Like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, so shine bright.
Vous écoutez toujours C'est moi qui lis sur le 101.1 FM. C'était Rihanna avec son titre Diamonds. Peut-être vous êtes-vous demandé pourquoi mettre Rihanna dans une chronique littéraire sur Amélie Nothomb. Eh bien c'est tout simplement parce qu'elle trouve cette musique irrésistible, qu'elle ne peut s'empêcher de danser, même si pour elle, elle danse très mal et chante faux. Dans le roman Les prénoms épicènes, Dominique et Claude sont des personnages aux prénoms mixtes, que l'on appelle également épicènes. Ils ont donc eu tout naturellement une enfant qui s'appelle Épicène. Après Frappe-toi le cœur, où la mère n'aime pas sa fille, ici c'est le père qui n'aime manifestement pas sa fille et sa mère qui semble effacée. Alors je pourrais bien plus résumer le livre, mais j'ai vraiment envie de respecter ce choix de ne pas mettre de résumé en quatrième de couverture, uniquement une citation du livre, comme tous les livres d'Amélie Nothomb. Alors du coup je vais juste vous lire la citation qui est derrière. La personne qui aime est toujours la plus forte. Les prénoms épicènes, page 28. Restée seule, Dominique s'empara du paquet. Elle eut honte d'abîmer un emballage à ce point magnifique. Sur le papier, une étiquette indiquait une adresse sur les Champs-Élysées, et la jeune femme ne put se défendre d'être impressionnée. Chanel numéro 5. Elle savait que cela existait, point final. Jamais elle n'avait reçu de parfum. Quant à l'idée de s'en acheter un, elle ne l'avait même pas effleuré. Claude était fou de lui offrir cela. Elle quitta le café, espérant que personne ne l'avait vue dans une situation aussi gênante. Chez elle, elle s'enferma dans la salle de bain et osa sortir le flacon de sa boîte. L'objet lui parut d'une beauté inégalable. C'était le modèle d'origine, sans vaporisateur. Elle enleva le bouchon et respira. L'odeur la stupéfia trop profondément pour qu'elle puisse savoir si cela lui plaisait. Au bureau, une de ses collègues lui avait dit qu'il fallait porter un parfum pour déterminer s'il vous allait. Il ne sentait pas pareil en fonction des individus. Dominique se déshabilla entièrement, s'assit sur le bord de la baignoire et saisit le flacon. Elle procéda comme elle avait vu au cinéma. Elle imbiba le bouchon en retournant le flacon, puis elle en caressa l'intérieur de son poignet. Ensuite, elle porta à ses narines sa peau métamorphosée par l'onction. Ce qu'elle éprouva alors dépassa toutes les émotions qu'elle avait vécues. Si elle avait été contrainte de mettre des mots sur ce qu'elle ressentait, elle aurait dit que cela sentait la reine d'un autre monde, l'élégance à son sommet, la beauté enfin incarnée et le baiser de ses rêves, si différent des baisers laborieux qu'elle acceptait de Claude. Mais dans l'intimité de la salle de bain, elle ne se donnait pas le devoir de nommer, elle se contenta de gémir de plaisir. Elle renversa à nouveau le flacon et imprégna plus généreusement le creux du poignet. Le dieu du parfum l'étreignit, La vieille astuce du cuir de Russie opéra et la jeune femme comprit que sa peau était le siège d'une jouissance sans limite. Elle se vit nue dans le miroir et elle sut qu'elle était belle. Détournant aussitôt le regard, elle se demanda si Claude la désirait et l'odeur ensorcelante répondit avec autorité qu'elle ne pouvait pas en douter. Alors, elle commit l'impensable. Elle imbiba le bouchon de rechef et elle oignit sans mesure le haut de son cou en observant son geste dans le reflet. Une goutte de parfum coula sur sa poitrine et l'ivresse se propagea à son corps entier. À 25 ans, Dominique ne connaissait que l'eau de Cologne qu'elle n'appréciait guère. En lui offrant Chanel numéro 5, en choisissant pour elle ce parfum somptueux, Claude lui déclarait sa flamme avec éclat. La senteur miraculeuse l'enveloppa de son trouble et elle dit à voix haute « Je l'aime ». De s'entendre prononcer ces mots, elle se demanda à qui elle s'adressait. Elle répondit à son reflet. « J'aime Claude. Claude, je t'aime. » Elle frémit de la tête aux pieds. C'était donc cela. L'esprit du parfum l'avait libérée de sa peur. Claude était ce prince qui la délivrerait du sortilège qui l'emprisonnait. Par quel génie avait-il su que Chanel numéro 5 était la clé de son âme ? Elle l'ignorait, mais elle l'en bénissait. Oui, elle l'épouserait. Elle vivrait avec lui. Elle habiterait la ville de ce parfum. Le lendemain, au travail, sa collègue lui dit qu'elle avait l'air bizarre. Pour la première fois, Dominique parla de ce qui lui arrivait. « Mon amoureux m'a offert Chanel numéro 5. » Christelle éclata de rire, puis commenta. « Il n'a pas peur des clichés, ton amoureux ?» Dominique la détesta et elle attribua sa réaction à la jalousie. Comme elle avait eu raison de ne jamais se confier à elle auparavant, on ne l'y reprendrait plus. Et comme elle avait hâte de quitter ce patelin et sa petitesse d'esprit, à Paris, elle en était sûre, de telles mesquineries n'existaient pas. Le soir, avant son rendez-vous, elle mit un peu du parfum qui avait décidé de sa vie. Claude avait oublié son cadeau et trouva qu'elle sentait une drôle d'odeur, mais il n'eut pas le temps de le dire. Avec solennité, Dominique déclara, en le regardant dans les yeux, « J'accepte de devenir ta femme. » Elle vit l'ébahissement ravi du jeune homme qui demanda « Quel a été le déclic ?»« Chanel numéro 5. J'avais mal jugé cette vendeuse. » Une grande professionnelle, pensa-t-il. « Ma chérie, je suis le plus heureux des hommes. Marions-nous le plus vite possible. Pourquoi es-tu si pressée ? Je ne veux pas que tu changes d'avis. » Elle rit. Comme elle l'aimait.
Il paraît que quand une fille n'est pas aimée par son père, elle a beaucoup plus de mal à prendre conscience du fait qu'elle est une femme. Donc ça tombe très bien qu'elle porte un prénom épicène et elle peut en jouer.
C'est ce qu'Amélie Nothomb disait dans la grande librairie après la parution de son roman en août 2018. La base de ce livre, dit-elle, est l'imagination de la pire vengeance amoureuse possible. Alors je vous défie, après avoir écouté cette chronique, d'imaginer votre pire vengeance, puis de lire ce livre. Parce qu'ici, la vengeance, la machination, l'envie d'être aimée, tout ça n'a pas de limite. Et après ce livre, personnellement, je n'étais pas bien. Est-ce que j'aurais été capable de tels actes ? Qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais victime ou observatrice ? En toute honnêteté, je crois que ce qui chamboule, c'est qu'après avoir lu un livre d'Amélie Nothomb, on est rarement bien. Mais passé ce chamboulement, on est quand même très heureux d'avoir été lecteur ou lectrice, d'être resté un temps dans une histoire folle, sans que cette folie ne soit trop contagieuse. Petit fun fact, selon ses neveux et nièces, elle aurait une certaine fascination pour la tapette à mouches, elle aurait un problème fondamental avec les mouches. Bon, comme quoi, on peut être au sommet de la littérature francophone et être comme tout le monde à détester les mouches. Merci à tous et à toutes de m'avoir écouté, c'était Marion avec la chronique C'est moi qui lis. On se retrouve vendredi pour un épisode sur Stéphane Zweig, toujours sur le 101.1 FM, et en attendant, amusez-vous bien.